Radioscopie.
Georges Semprin.
Jacques Chancel. Donc, j'ai bien écouté, on dit Georges Semprin.
On le dit en français, oui.
En espagnol, on le dit comment?
En espagnol, c'est pratiquement imprononçable pour un français. On devrait dire Jorge Semprún.
Alors, je dis Georges Semprin. Alors, Georges, les événements, ceux que vous avez vécus, s'éloignent dans le passé et les zones obscures apparaissent en pleine lumière. Vous nous les offrez, vous, l'écrivain, vous, l'auteur de cinéma, depuis 1963, c'est en 63, je crois, qu'est venu en librairie votre premier livre, Le Grand Voyage, vous avez pris Le Temps de la Mémoire. Vous êtes espagnol et vous avez écrit, il y a quelques années, vous avez dit du moins, « De la guerre d'Espagne, j'ai d'abord une mémoire de vacances interrompues et le souvenir d'une grande rupture de l'enfance. » En 1939, vous aviez 16 ans, vous êtes installé en France, nous sommes en 1976. Êtes-vous toujours espagnol? Avez-vous renoué avec l'enfance?
Je suis toujours espagnol, d'ailleurs je suis, je crois, de plus en plus, puisque l'Espagne a changé ces derniers temps, puisque depuis la mort de Franco, l'Espagne redevient peu à peu ce que nous voulions qu'elle soit. Et je suis donc encore plus facilement espagnol. Le contact avec l'Espagne, la possibilité d'un retour en Espagne se fait beaucoup plus précise.
Vous vous installerez en Espagne?
Je m'installerai en Espagne, sûrement, sûrement, dans les mois à venir. Je ne pense pas que je puisse jamais couper complètement un certain rapport avec la France. C'est-à-dire, pas seulement avec un pays où j'ai vécu longtemps, mais avec un pays dont j'ai utilisé, dont je me suis approprié la langue, c'est-à-dire l'une des choses les plus importantes d'un pays, d'une culture. J'ai volé la langue, donc je crois que je reviendrai souvent sur le lieu de ce vol.
Mais en 1939, lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous parliez un peu le français?
Non, pas du tout.
Vous n'avez même pas le moindre accent?
Parfois j'ai de l'accent, vous verrez, quand je me fatigue un peu, j'ai de l'accent, je bute sur certains mots.
La chose a été facile, notre langue n'est pas une trop grande difficulté.
Non, la difficulté n'est pas la langue. La difficulté,
parce que vous aviez 16 ans.
Oui, la difficulté c'est l'exil. C'est-à-dire on arrive dans un pays après une guerre civile qu'on a vécue enfantinement à travers l'expérience des autres, et très concrètement la mienne à travers celle de mon père, qui était un professeur de droit à l'Université de Madrid, qui était un catholique libéral, avocat, et qui a pris parti pour la République en 1936, pour le Front populaire, et qui a vécu donc cette guerre à des postes diplomatiques à l'étranger. Donc on arrive dans un pays qui est non seulement un exil banal, mais un exil qui est une rupture totale avec le passé, avec l'enfance. Et on a le sentiment qu'on est doublement étranger. Et il faut essayer d'effacer ce sentiment. Et la meilleure façon de l'effacer, ma réaction à moi, en tout cas, était celle-là. Peut-être d'autres ont d'autres réactions. La mienne a été de cacher cette condition d'étranger, d'en faire une espèce de trésor privé à moi, qui ne soit pas apparent parce que je parle mal. Donc j'ai essayé de parler le plus vite possible normalement, et après de l'écrire normalement, ce français qui m'était imposé par l'histoire.
Cette France vous a accueilli, mais cette France également vous a permis d'assurer le commencement de votre œuvre. Et pour mieux vous connaître, il serait peut-être bon maintenant de dire un peu qui vous êtes, ce que vous avez fait du moins. Ce que vous êtes, vous allez nous le dire après. Je disais tout à l'heure qu'il y avait d'abord l'écriture, vous êtes romancier, le premier roman c'était en 1963, Le Grand Voyage, il y a eu ensuite L'Évanouissement, il y a eu ensuite Le Prix Femina, avec la deuxième mort de Ramon Mercader, et puis il y a eu les films, et les films vous ont assuré vraiment la notoriété, parce qu'il y a eu avec Alain René, La Guerre est finie, et l'affaire Stavisky, avec Costa Gavras, Z, L'Aveu, Section Spéciale, ce sont tout de même des films qui ont compté. Et ensuite, avec Boisset, L'Attentat, les deux mémoires, mais les deux mémoires, là, vous étiez metteur en scène.
J'étais metteur en scène.
Avez-vous réussi, là?
C'est un film d'interview et de documents, ce n'est pas un film de fiction. On va en parler sûrement, parce que c'est tellement lié à toute l'expérience.
À toute votre vie.
Oui.
C'est la troisième mémoire.
C'est la troisième mémoire. Oui.
Et puis, ce dernier film avec Pierre Granier de Fer, Une femme à sa fenêtre. Avez-vous l'impression d'avoir, comme je le disais à l'instant, commencé votre œuvre? Ce sont des films, ce sont des livres qui comptent.
Oui, vous voyez, je l'ai commencé très tard, parce qu'en 63, j'avais déjà 40 ans. Il y a une explication très évidente à cela. C'est qu'avant d'écrire, même si j'ai toujours pensé à écrire, comme nous sommes d'une famille d'écrivains. Mon père écrivait, j'ai un frère qui écrit, j'ai un fils qui écrit. C'est une maladie familiale et peut-être héréditaire, l'écriture. Mais indépendamment du fait que j'ai toujours pensé à écrire, j'ai toujours écrit des poèmes et des pièces de théâtre qui n'ont pas été jouées, qui sont restées dans les tiroirs, je n'ai pas pu devenir ce qu'on appelle un écrivain. Je n'ai pas voulu, d'ailleurs, devenir un écrivain parce que jusqu'en 63, jusqu'au grand voyage, j'ai fait de la politique. Et de la politique en Espagne, dans des circonstances précises et déterminées, donc...
Très engagé, révolutionnaire.
Et avec... bien. Donc, c'est la fin de cette expérience-là qui m'a, d'une certaine façon, libéré pour l'écriture qui était possible et latente. Donc, je commence à écrire très tard. Et comme j'écris très tard, je suis donc au début de ce travail d'écriture. J'espère que je pourrai encore faire beaucoup d'autres choses.
Il y a donc ce dernier film, Une femme à sa fenêtre, mis en scène par Pierre Garnier-Defer, avec Romy Schneider, Philippe Noiret, Victor Lanoux, d'après le roman de Drieu-La Rochelle.
D'après le roman de Drieu, oui.
Vous, un homme de gauche, ou qui était de gauche...
Qui suis toujours de gauche.
Mais qui n'est plus communiste.
Qui n'est plus communiste, non.
Qui avait rompu, avec, c'est la rupture totale, avec
oui,
l'enfance
total.
Et avec le communisme.
Oui.
Et Drieu-La Rochelle, homme de droite.
Tout à fait, oui. Mais là c'est,
comme
c'est...
quoi il peut y avoir collaboration.
Comme quoi il peut y avoir collaboration, oui. Non, là, je crois que mon rapport avec Drieu est un rapport très simple et finalement très sain. C'est-à-dire, Drieu a dit en 1942, dans un article sur l'écrivain et l'engagement politique, il a rappelé une anecdote de 1936, où un journaliste se posait la question, qu'est-ce que vous feriez s'il y avait la guerre civile, etc. Et vous étiez en face de M. M, c'est Malraux. Et Drieu dit, peut-être, je serais obligé de le faire fusiller ou de tirer sur lui. Bien, je crois que ce rapport que Drieu établit avec Malraux, par respect pour l'engagement politique de Malraux en 1936, je pourrais dire la même chose. Je reprends à mon compte cette phrase de Drieu par rapport à lui-même.
C'est-à-dire vous pourriez le faire fusiller, mais vous l'estimez.
C'est-à-dire qu'en 42, 43, peut-être, on se serait trouvé dans des circonstances où il aurait fallu le faire fusiller. Cela dit, Drieu s'est suicidé. Nous sommes en 76. Mon rapport avec lui est très simple parce que sur le plan de Drieu, écrivain, essayiste, fasciste, je n'ai pas changé. Je suis toujours antifasciste. Je crois que le fascisme a été un mal historique qu'il fallait exterminer, liquider, etc. Mais j'ai une expérience par rapport à l'engagement, à l'écrivain et à l'engagement, qui est une expérience qui me permet aujourd'hui de regarder celle de Drieu avec un œil différent. Parce que finalement...
De comprendre.
Finalement, moi, mon expérience avec l'engagement stalinien, disons les choses par leurs mots les plus brutaux...
Vous avez l'âge...
J'ai l'âge de maintenant de comprendre que l'aliénation de l'un et de l'autre sont comparables. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un homme comme Drieu s'engage dans cette voie néfaste du fascisme, même si le stalinisme est tombé du bon côté de l'histoire, et pas seulement parce qu'il est tombé du côté des vainqueurs, dans la grande Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce qu'il est tombé du côté des victimes et du côté des opprimés. Même s'il est tombé du bon côté de l'histoire, je crois que le rapport critique que j'ai avec le stalinisme est le rapport critique que pourrait avoir eu à la fin de sa vie, Drieu, avec cette expérience de socialisme fasciste, comme il disait dans cette utopie. Et puis il y a un autre élément qui joue un rôle, mais alors est typiquement espagnol. J'ai connu en Espagne, pendant la clandestinité, pendant le travail politique clandestin, qui a duré 10 ans, de 53 à 63.
Vous étiez installé de quel côté à ce moment-là?
J'ai toujours travaillé clandestinement à Madrid. C'était le lieu de mon enfance. Je revenais dans la ville de mon enfance pour faire mon travail d'adulte.
On ne vous a jamais trouvé là-bas?
On ne m'a jamais trouvé, non.
On ne vous a jamais cherché?
On en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu l'amnistie,
bien
entendu.
Sûr.
Parce que la mort de Franco permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire, on n'aurait pas pu dire il y a 2 ans. Et parce que tout le monde revient maintenant et qu'il y a une certaine légalité du passé, de la mémoire qui est rétablie en Espagne. Donc toute la presse espagnole aujourd'hui raconte des aventures d'un certain nombre de militants clandestins. C'est pour ça que j'en parle. Je ne veux pas que ça ait un côté comme ça mondain. On parle de ça, c'est parce que c'est possible. Et en Espagne, donc, de 56 à 63... J'ai beaucoup travaillé politiquement et je suis devenu l'ami, je l'espère, de quelqu'un qui est mort aujourd'hui et qui était un écrivain, pas un romancier comme Drieu, mais un écrivain, un poète, un essayiste, fasciste aussi, phalangiste, pour employer le terme espagnol, qui avait eu des postes très élevés. Il avait été délégué national de propagande pendant la guerre civile. C'est lui qui écrivait les discours de Franco, qui avait rompu avec le régime en 1942-1943 et qui avait évolué vers une attitude d'opposition. et avec lequel, moi, en tant que représentant du Parti communiste, j'ai eu des rapports politiques à partir de 1956. Et je ne regrette absolument pas ces rapports-là. Parce que c'était un homme d'une très grande lucidité critique. Et il est dans les deux mémoires, l'un des personnages clés des deux mémoires de ce film d'interview. Donc on ne sait pas ce que serait devenu le rapport avec Drieu, si Drieu avait vécu, s'il n'avait pas jugé opportun de se suicider pour mettre fin à une certaine expérience.
Donc, Georges Sempreuve, vous pouvez comprendre des gens, des Espagnols, qui ont été du côté de Franco. Vous pouvez le comprendre aujourd'hui.
Absolument, bien sûr.
Et parler avec eux,
absolument.
Et même les rencontrer,
absolument.
Et mais faire
là,
cause commune.
Mais là, je crois que, indépendamment de toutes les... On ne va pas parler de ça aujourd'hui, bien entendu, mais indépendamment de toutes les critiques qui ont, que je pourrais faire à la politique du Parti communiste espagnol, et indépendamment de tous les motifs qui ont fait que j'en sois sorti à travers une crise assez difficile...
Et qui fait une déchirure, quand même.
Et qui est une déchirure, bien entendu. Indépendamment de ça, le Parti communiste a le grand mérite historique d'avoir été celui qui a lancé cette politique... qu'il a nommé, un terme peut-être un peu difficile à comprendre de l'extérieur, parce qu'il rappelle d'autres souvenirs, la politique de réconciliation nationale, c'est-à-dire la politique de rétablir le clivage de forces sociales et politiques espagnoles, non en fonction de la guerre civile, des affrontements de la guerre civile, mais en fonction des affrontements sociaux de l'Espagne actuelle, contemporaine, qui a beaucoup changé.
On a souvent dit, Georges Sempreuve, que votre action révolutionnaire était très souvent très aristocratique. Et cela voulait dire que vous la mettiez peut-être à un très haut niveau.
Aristocratique, je sais pas moi.
C'est la manière de faire les choses.
Je ne sais pas si c'est aristocratique de passer les frontières clandestinement pour essayer d'organiser des groupes, des actions, pour travailler avec les intellectuels, les étudiants espagnols à partir de 1956. C'est aristocratique peut-être dans la mesure où, on peut le concevoir dans la mesure où le goût du risque et le goût de l'aventure peut paraître aristocratique. Et je veux être assez lucide sur moi-même pour dire qu'il est évident qu'il n'y a pas que la politique, le sens du devoir politique, la mission politique à accomplir qui pousse quelqu'un, qui m'ont poussé moi à faire tout cela. Il y a aussi le plaisir qu'on se donne à faire ça. Plutôt que de rester comme fonctionnaire que j'étais, fonctionnaire international à l'UNESCO. C'est évident qu'entre le plaisir d'être fonctionnaire international à l'UNESCO et le plaisir d'être fonctionnaire du Parti communiste, pour moi, le plaisir du deuxième était beaucoup plus grand.
Il faut également dire, Georges Sempreuve, que vous êtes issu d'un milieu bourgeois parce que votre grand-père, si j'en crois les bonnes informations, était Premier ministre d'Alphonse XIII.
Mon grand-père maternel a été le personnage clé de la politique espagnole du début du XXe siècle.
Monarchiste,
conservateur. Et Premier ministre du roi Alphonse XIII pendant, je ne sais pas, 10 ans, en plusieurs étapes.
Et vous aviez un oncle, en revanche, qui était ministre,
lui,
de la République espagnole.
C'est ça. Je suis de la troisième génération, si vous voulez, de la politique de cette famille. La deuxième étant celle de mon oncle Miguel Maura, qui était le premier membre du comité révolutionnaire qui a fondé la République en 1931 et qui est passé de la prison au ministère de l'Intérieur après les élections du 14 avril 1931 et qui était le premier ministre de l'Intérieur de la République espagnole.
Pardonnez-moi de vous dire ceci, Georges Sempreuve, est-il bien que Franco soit resté ainsi de longues années à son poste? Je vous dis cela parce que s'il y était resté moins de temps, peut-être n'y aurait-il pas eu l'intervalle d'une génération, c'est-à-dire l'intervalle d'un oubli. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les Espagnols, les Républicains, qui ont passé tellement d'années à peut-être avoir de la haine, à oublier, et ensuite à se dire on va revenir en Espagne, peuvent y revenir, ou du moins leurs enfants seraient contents de retrouver un pays, même s'ils sont français.
Oui. Non, le problème, je crois, avec la longévité de Franco, c'est que l'expérience du franquisme, c'est-à-dire du fascisme espagnol, est une expérience très particulière. Je crois qu'en fait, c'est la plus intéressante de toutes les expériences, même si elle est la plus triste. Parce que le nazisme a été éliminé par la guerre, le fascisme italien aussi. Au Portugal, ce n'est pas Salazar qui a été renversé par l'armée révolutionnaire à cause de la guerre coloniale, c'est son successeur déjà. En Espagne, nous assistons à toute la trajectoire, à toute l'histoire du fascisme depuis la guerre civile, le coup d'État manqué, la guerre civile, la victoire, l'installation du régime. Et il ne faut jamais oublier, quand on pense à l'Espagne d'aujourd'hui, qui est relativement bouillonnante et qui est relativement libre dans certains secteurs plus que dans d'autres, n'oublions pas que Franco est mort dans son lit. Il est mort longuement, douloureusement, parce qu'on a prolongé son agonie.
Dans son lit.
Mais il est mort dans son lit, c'est-à-dire que nous n'avons pas renversé Franco.
Donc vous n'avez pas réussi, vous voulez dire?
Donc nous n'avons pas réussi.
Et vous considérez cela
comme
un échec?
Je considère qu'en tout cas, c'est la preuve que nous avons pendant très longtemps vécu sur une idée non réaliste. Et c'est l'une des causes de la discussion qui a abouti à l'exclusion du Parti communiste espagnol d'un certain nombre de dirigeants dont j'étais. Nous avons vécu sur des illusions.
Franco a assuré une continuité.
Franco a assuré une continuité parce qu'il n'est pas seulement le dictateur qu'il a été, parce que derrière cette croûte immobile des institutions franquistes qu'aujourd'hui le régime en place monarchique est obligé de démanteler, derrière ça, il y a un pays qui a évolué et qui a fait sa mutation, si vous voulez, sa mutation, employons des mots un peu techniques, sa mutation capitaliste. L'Espagne est passée sous le franquisme de la période pré-capitaliste et dans certaines régions agraires semi-féodales au capitalisme moderne. Et c'est là qu'est sa force, si vous voulez, et c'est là où nous n'avons pas su l'affronter sur son propre terrain.
Le roi Juan Carlos, celui qui est sur le trône d'Espagne aujourd'hui, doit vous surprendre. Vous ne vous attendiez pas à ce succès, car c'est un succès.
Non, là je dois dire que non, cela ne me surprend pas. Non, parce que, bien sûr, c'est le roi qui est héritier du franquisme, qui est installé et mis en place par Franco avant la mort de celui-ci, qui a juré fidélité, qu'il va s'empresser d'ailleurs de trahir, heureusement, au principe du mouvement, c'est-à-dire au principe de la phalange, au principe du parti unique, au principe franquiste. Mais il est obligé, pour tenir, pour durer, d'essayer de reconquérir une légitimité d'une certaine façon populaire. Donc, le fait que sa démarche politique soit vers la démocratisation, on peut mettre, selon les cas, des guillemets ou ne pas les mettre, est une démarche absolument naturelle. C'est ça ou mourir, ou disparaître. Donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'il ait la politique qu'il a, qu'il pratique, parce qu'il n'en a pas d'autre. Ou alors, il sait, comme son grand-père, il sera obligé d'abdiquer et de quitter l'Espagne.
Vous pouvez déjà prévoir ce que dira l'histoire de Franco dans 50, dans une centaine d'années.
Vous savez, on vient de publier en Espagne un livre passionnant, qui est un livre d'un cousin germain de Franco, qui est un général aussi de l'armée espagnole, qui est mort aussi maintenant, qui s'appelle, comme son cousin, Franco Salgado, et qui est un journal, au jour le jour, enfin c'est un pléonasme, un journal de ses conversations privées avec Franco pendant toute une série d'années. Et donc on assiste, ce livre aurait été impubliable, bien entendu, non seulement du temps de la vie de Franco, mais même il y a quelques mois, au début de la monarchie. On assiste de l'intérieur c'est comme les conversations d'Hitler avec ses intimes à Berchtesgaden ou dans d'autres lieux.
Transformation totale.
C'est un personnage d'une très grande médiocrité. C'est terrifiant pour nous, Espagnols, de voir à quel point ce dictateur est un personnage d'une très grande médiocrité, sans idée personnelle sur rien, avec deux ou trois obsessions, la franc-maçonnerie, le communisme, les services d'espionnage, etc. Enfin, vraiment deux ou trois obsessions, et ne faisant au fond qu'une seule politique, celle de laisser faire les choses. Laisser faire les choses, c'est-à-dire laisser faire les puissants, les banquiers, laisser faire le ministre de l'Intérieur, laisser faire la police. En fait, il n'y avait pas d'autre politique.
Donc seuls les médiocres peuvent être des dictateurs.
Non, je ne crois pas, parce que Staline n'était pas un médiocre. Il a été aussi un très grand dictateur, un très terrible dictateur. Mais dans ce cas précis, nous avons peut-être la dictature que nous avons méritée après une guerre civile perdue. Nous avons la dictature d'un médiocre.
Georges Samprin, vous disiez tout à l'heure qu'il vous plairait de repartir pour l'Espagne. Vous y êtes déjà revenu. Vous avez fait la carrière que l'on sait en France avec des romans, avec des films. Je parlais de Z, de l'aveu, de section spéciale, de ce dernier, une femme à sa fenêtre qui sort maintenant. Mais en Espagne, vous pourrez refaire une autre carrière dans le même style. Vous pourrez avoir cette œuvre cinématographique et romancée.
En tout cas, je vais essayer.
Écrire en espagnol, vous allez le pouvoir?
Je suis en train de le faire.
C'est dur?
Non, c'est très passionnant.
Parce que vous avez écrit en français toute votre œuvre.
J'ai toujours écrit en français. C'est-à-dire que j'ai quand même toujours écrit un peu en espagnol, des choses non publiées, des choses peut-être intimes, des choses ou alors des articles et des rapports politiques, à mon époque de dirigeant politique communiste, mais je n'ai jamais écrit littérairement en espagnol, non, enfin des œuvres littéraires, ou des essais, ou des romans. Là, je suis en train d'écrire un livre en espagnol, c'est donc une espèce de nouvelle aventure qui commence, et elle a un but très précis.
Il fallait le faire d'abord.
En plus,
c'était
nécessaire. Et en plus, c'est si vous voulez, la préparation de ce retour. La carte de visite pour ce retour. Je n'offre rien, mais enfin, je reviens, vous le disiez tout à l'heure, dans le pays de mon enfance, oui. Et je reconquiers la langue de mon enfance.
Et je retrouve mon enfance.
Et je retrouve.
Oui, parce que cela fait quand même quelques années, vous êtes né en 1923, vous étiez réfugié politique en France en 1939, vous avez une licence de philosophie inachevée.
Oui.
C'est douloureux de ne pas être allé jusqu'au bout.
Non, pas du tout. Non, elle est inachevée parce qu'en 1942, il m'a paru plus intéressant, plus amusant peut-être aussi, en tout cas plus près de moi à ce moment-là, d'aller dans le maquis que de finir ma licence de philosophie. Donc je ne regrette absolument pas de ne pas l'avoir finie. Je crois que de temps en temps, la licence de philosophie m'a aidé à travailler dans le maquis ou à supporter le camp de concentration. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir commencé.
Enfin, dans votre vie, vous aurez eu deux tentations, la tentation de la littérature et la tentation de la lutte politique. Mais vous êtes allé jusqu'au bout des deux tentations. Vous avez écrit, vous avez lutté.
Oui.
Donc c'est une vie presque accomplie.
Qui peut recommencer. Non, une vie presque non accomplie, pas du tout. Non, je ne crois pas, parce que il reste beaucoup de choses à faire.
Vous voyez, Georges Semprin, lorsqu'on regarde l'année 1963, on s'aperçoit qu'il y a une double tentative. Un, c'est la rupture avec le Parti communiste espagnol. Je crois que c'est en 63.
Hein. Oui, elle commence à ce moment-là. Hein? Ouais.
Enfin, et deux, c'est votre premier livre. Le Grand Voyage, c'est le récit de cette route qui conduit au camp de déportation. Et vous avez mis du temps à l'écrire, ce livre. Car c'était entre 40 et 45, et nous sommes en 63, 20 ans après.
Oui. La coïncidence des dates n'est pas du tout...
Elle n'est pas voulue, mais ce sont des signes parfois.
Elle n'est pas du tout non plus accidentelle. Ah bon. C'est-à-dire que j'ai pu publier ce livre parce qu'il se produisait ce qui se produisait dans ma vie politique. Le Grand Voyage est un livre qui est écrit en 1960, presque entièrement d'une traite, comme ça, d'un souffle, en Espagne, à Madrid, dans un appartement clandestin. Un appartement où a vécu avant un autre dirigeant du parti, où j'ai vécu, et où après moi a vécu Julián Grimau, qui a été fusillé par Franco. Et il s'est produit en Espagne, à ce moment-là, à Madrid, des arrestations, une vague d'arrestations. Et les camarades qui dirigeaient le travail avec moi, dont j'étais responsable, nous avons décidé de couper les contacts et les fils avec les organisations atteintes par la vague policière pour être sûr de ne pas faire de faux pas quand on reconstruirait l'organisation. C'est un peu le travail de Pénélope, le travail politique. Et donc, je me suis trouvé pendant une dizaine de jours seul dans un appartement avec du papier blanc, une machine à écrire, rien à faire. Et brusquement, ce livre, qui avait toujours été un projet, mais qui avait toujours été un échec sur le plan de sa réalisation...
Mais qui était une mémoire,
est venu comme ça, en français, alors que j'étais en Espagne et que je vivais donc une vie espagnole. Puis le livre est resté dans le tiroir parce que, bien entendu, la vie a repris le dessus, l'activité a repris sa place, etc. Et en 62, ce livre étant inachevé, parce qu'il aurait été inachevé encore maintenant s'il n'y avait pas eu des amis qui me l'ont arraché, dont particulièrement une amie qui s'appelle Monique Lange et qui travaillait chez Gallimard à l'époque, il serait resté inachevé. C'est un manuscrit qui aurait pu rester dans le tiroir pendant toute ma vie. En 62, la décision a été prise par le bureau politique du Parti communiste espagnol que je ne revienne plus en Espagne clandestinement. Parce qu'il y avait eu toute une série d'arrestations et de choses qui faisaient penser que je courais un certain risque. Cette décision a été prise. Il fallait bien que je m'y tienne, que je sois discipliné et que je m'y tienne. De toute façon, il n'était pas question d'aller pour mon propre compte. Et ça m'a permis de rétablir en France une nouvelle existence interrompue depuis 1953 par tous ces voyages en Espagne, de régler mes questions, disons, d'identité et de...
Le temps d'écrire.
Et ce livre, presque prêt, est venu à ce moment-là, à point nommé. Voilà, donc il y a une coïncidence.
Combien de temps êtes-vous resté dans les camps de la mort ?
Je suis resté à Buchenwald de près de 2 ans. Près de 2 ans.
Mais alors pourquoi avoir attendu 20 ans pour raconter? Bon, il y a le temps de, d'écrire, d'accord, mais le temps de réfléchir, peut-être vous vous êtes demandé dois-je écrire?
Vous savez, en revenant en 1945, j'ai écrit tout de suite, immédiatement, un très gros roman qui était un peu la résistance, la déportation, tout ça, c'était très mauvais. Et donc il y a le temps de la distance. En effet, mais il y a une autre raison très, très précise, c'est que je me suis très vite, en revenant, trouvé dans le besoin intime de ne pas être un ancien combattant, de ne pas être un survivant. J'ai cessé de fréquenter mes camarades déportés. Je n'ai pas fait les démarches qu'il fallait pour avoir les cartes, les pensions, tout ce qu'il faut avoir. J'ai coupé avec ce passé parce que j'ai eu l'impression que j'en serais prisonnier et que je passerais le reste de ma vie à survivre. Et donc, il m'est arrivé pendant ces années-là d'entendre des gens me raconter des expériences qu'ils ont vécues dans les camps et d'écouter comme un témoin de l'extérieur. Et brusquement de me dire, mais au fond, je le sais aussi bien que lui, j'y étais. Donc, il y a une espèce de volonté, si vous voulez, une espèce de décision presque inconsciente, oui, oui. De réaction de défense, de couper court. Et puis, le temps ayant passé, je n'avais plus les mêmes... Ça n'a ravivé pas de la même blessure, cette mémoire-là. Je pouvais la prendre, l'assumer, la prendre en charge. Donc, à ce moment-là, c'était possible de l'écrire.
Il y a eu donc ce premier roman, Le Grand Voyage, 1963. 3 ans plus tard, 1966, L'Évanouissement. C'est cette fois-ci le retour de déportation. Et puis, 3 ans après, car cela vient tous les 3 ans chez vous.
Mais ça fait longtemps que ce n'est pas venu.
1969, la deuxième mort de Ramon Mercader. Et cette fois-ci, c'est le prix Femina. Mais Ramon Mercader, c'est le nom de l'assassin de Trotsky.
C'est le nom de l'assassin de Trotsky, oui. Parce que ce qui m'a fasciné dans cette histoire, qui est une histoire romanesque, très rocambolesque peut-être, où il y a une trame d'espionnage, c'est de jouer sur les identités qui se mélangent et qui se confondent, et de jouer sur, à l'arrière-plan, ce personnage qui est fascinant dans l'horreur et dans la fidélité, et qui est le personnage réel, authentique de Ramon Mercader, c'est-à-dire le personnage d'un jeune communiste catalan qu'on recrute en Catalogne, pendant la guerre civile, pour en faire l'assassin de Trotsky. Et qu'on éduque, qu'on prépare à ça, qui réussit à parvenir, donc, comme tout le monde sait, jusqu'à Trotsky, à l'assassiner, qui passe 20 ans en prison à Mexico, qui est identifié parce que la police mexicaine retrouve les empreintes digitales et prouve par les empreintes digitales qu'il est vraiment Ramon Mercader del Rio, et qui refuse d'admettre, et qui nie cette identité. Et qui donc, ayant nié tout cela, fait vraiment sa peine jusqu'au bout, accomplit les 20 ans de prison et sort ayant nié toujours, en disant « Je m'appelle Mornard », qui était le nom d'un faux passeport qu'il avait utilisé pour voyager. Donc, si vous voulez, le militant qui devient un criminel parce qu'il croit servir une cause et parce que c'est un bon militant, c'est cette espèce d'ambiguïté terrible du militant qui m'a passionné dans ce personnage.
Mais aujourd'hui, êtes-vous toujours ce militant, ce révolutionnaire ? Vous n'êtes plus clandestin.
Je ne suis plus du tout clandestin. Vous voyez, nous parlons de tout ça avec une grande facilité. Il n'y a plus de clandestins en Espagne, pratiquement, sauf les Basques. Sauf les Basques. Parce que l'Espagne est un pays très curieux et très paradoxal, où nous vivons une situation qui est due en grande partie aux actions basques. Je ne suis pas en train de défendre le terrorisme de ETA basque. Je suis en train d'exposer des faits.
Bien sûr.
L'exécution de Carrero Blanco, l'adjoint de Franco, a été décisive pour la succession. C'est-à-dire que si cet homme avait vécu encore après la mort de Franco, le roi Juan Carlos n'aurait pas pu faire la politique qu'il fait maintenant. Nous vivons tous donc en fonction de ces deux morts-là, et nous vivons de ces deux morts-là, la mort de Franco et la mort de Carrero Blanco, et nous oublions, quand je dis nous, les Espagnols et la classe politique espagnole, nous oublions complètement les Basques. Et de cette amnistie qui nous touche tous et qui nous concerne tous, moi et d'autres, sauf certains dirigeants du Parti communiste qui sont exclus pour l'instant de l'amnistie, qui n'ont pas encore de passeport, 3 ou 4, c'est tout, nous oublions les quelques dizaines de prisonniers politiques basques qui sont liés à ces actions-là, et qui sont en fait ceux qui ont le plus travaillé pour, indépendamment du fait qu'on puisse critiquer leur méthode, qui ont le plus travaillé pour que l'Espagne soit ce qu'elle est maintenant.
Georges Samprin, vous êtes basque ?
Non, je suis un peu à côté, un peu à côté de Santander.
On parlait donc de ce troisième roman, La deuxième mort de Ramon Mercader. Vous avez eu avec ce livre le prix Femina, et cela vous a beaucoup aidé.
Beaucoup, les prix aident beaucoup, bien entendu.
Il ne faut pas les refuser.
Ça n'a pas été un très bon féminin, vous savez, entre nous soit dit, les féminins, les bons féminins font beaucoup plus de tirages que celui-là. C'est un féminin un peu difficile peut-être, mais quand même, entre avant et après le prix, c'est une différence considérable.
Bon, il y a plusieurs ouvrages, plusieurs romans, une quinzaine de films qui comptent, mais au bout de tout ce temps-là, c'est-à-dire après 40 ans, enfin 1939-1976, ça ne fait pas tout à fait 40 ans, mais presque, êtes-vous encore un étranger en France ?
Oui et non.
Vous sentez-vous, plutôt ? Parce que nous, on vous reconnaît comme français et vous êtes espagnol.
Oui, absolument, oui.
Mais vous, c'est au fond de son
cœur.
Oui et
non. C'est-à-dire que je ne sens pas du tout étranger pour la plupart des choses de la vie. Mais en même temps, je ne me suis jamais totalement intégré non plus.
Parce que ce sont les souvenirs de l'enfance qui vous poursuivront jusqu'au bout.
Parce que c'est l'enfance qui est là. Et parce qu'en plus aussi, quand même, il y a eu ces 10 ans où j'ai beaucoup voyagé en Espagne et qui m'ont rafraîchi cette mémoire-là. Et en même temps, je ne suis pas non plus... Vous voyez, je suis bilingue, ou j'espère l'être, et je suis aussi... je ne sais pas comment dire, mais... j'ai deux langages et donc deux patries possibles, parce que je ne me sens pas du tout totalement espagnol. Il y a beaucoup de choses de la vie quotidienne. Je parle maintenant de la vie quotidienne espagnole, dès que j'y suis plus de 15 jours, qui m'irritent. Beaucoup, et qui en France n'existe pas, un certain provincialisme de la vie quotidienne, une certaine fausse rigueur morale, beaucoup d'hypocrisie dans les relations sociales, des choses qui sont évidemment liées à toute une expérience passée, qui vont sûrement changer, mais qui n'ont pas encore changé, et on est beaucoup moins libre en Espagne. Je ne parle pas maintenant de la liberté politique. Je parle de la liberté du rapport humain intérieur avec du rapport social. On est beaucoup moins libre en Espagne parce qu'en Espagne, on ne vous laisse pas tranquille. On veut toujours savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous allez faire, pourquoi vous êtes avec une telle et pas avec une telle, etc. Alors qu'en France, on est beaucoup plus civilisé.
Vous avez des enfants ?
Oui.
Voulez-vous l'espagnol ?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Ils sont nés en France ?
Ils sont nés en France, ils sont français, pas du tout. Non, là, sur ce plan-là, je crois qu'il faut respecter totalement la liberté et le choix des enfants.
Ils ont quel âge ?
Ils ont un fils qui a près de 30 ans et une fille qui a autant.
30 ans ?
Oui. Mais oui.
Vous avez quel âge ?
Je vais avoir dans un mois 53 ans.
Vous l'avez eu très jeune.
Mais, le retour des prisonniers, c'est toujours comme ça.
Georges Semprun, vous avez donné votre exil à la France. Il ne vous est pas venu à l'idée de vous installer ailleurs, dans un autre pays. Car à ce moment-là, c'est la liberté que vous cherchiez. Liberté charmante acquise, parce que vous êtes parti très vite pour les camps de concentration.
Oui, mais volontairement, donc je ne regrette rien. Non,
Volontairement.
Oui, volontairement, oui. Dans la mesure où on a fait les choses qui peuvent vous conduire dans un camp, je veux dire que on peut éviter les camps de concentration. C'est relativement facile de les éviter. Mais je veux dire que quand on y va, c'est parce qu'on a fait quelque chose qui vous y conduit.
Enfin, remarquez, dans cette période-là, beaucoup de gens n'avaient rien fait.
Ils n'avaient rien fait, oui, des rafles, oui. Mais je veux dire, la France, d'abord, c'est un choix de mon père. Mon père s'est installé en France. Lui, il est mort en exil. Il y avait un choix possible, c'est de partir dans un pays d'Amérique latine. Le Mexique était très accueillant. Dans ce pays d'Amérique latine aussi, là, l'obstacle du langage n'aurait pas existé. Et la plupart des Espagnols qui sont partis dans les pays d'Amérique latine se sont complètement installés. Je crois que ceux qui survivent reviennent en Espagne en touristes. Mais ils ont retrouvé complètement à cause du langage. Donc il y a un choix, mais un choix que je renouvelais moi-même, parce que finalement, je suis très, très satisfait d'être resté là.
Enfin, pour les Espagnols, Georges Semprun, vous êtes un Espagnol du dehors, aujourd'hui.
Pour les Espagnols, surtout ceux qui sont la majorité d'entre eux et qui ne savent pas que j'ai passé un certain nombre d'années parmi eux, sans qu'ils le sachent, je suis forcément un Espagnol de l'exil. Un écrivain doublement de l'exil, puisque j'écris en français.
Quel rapport faites-vous entre la littérature et le cinéma, puisque vous puisez aux deux sources ? Vous êtes plus content sans doute de vos films que de vos romans ?
Ce n'est pas du tout la même sorte de satisfaction, les deux rapports. Parce que le roman, c'est finalement quelque chose qu'on fait tout seul, qu'on peut mettre des années à faire. C'est un travail beaucoup plus solitaire. C'est un travail aussi qui, en général, est moins public, a moins de répercussions. Je ne compare pas. Je crois que c'est des choses différentes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance quand je fais du cinéma, puisque j'ai fait du cinéma avec surtout avec René, Costa Gavras, et maintenant avec Garnier de Fer.
Vous choisissez un peu quand même.
On me choisit. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai eu la chance d'être choisi par Alain René, parce que c'est lui qui est venu me proposer de travailler avec lui. C'était une chance incroyable de commencer un premier film avec Alain René. Mais tous les films que j'ai faits, je les ai faits parce que j'étais d'accord avec les propositions, avec le thème, avec la façon d'envisager les choses, d'y mettre en scène. Et donc, je suis très content des films aussi.
Mais regardons tous les films. La guerre est finie, l'affaire Stavisky, Alain René, Z, L'aveu, Section spéciale, Costa Gavras, L'attentat, Boisset, Une femme à sa fenêtre, Garnier de fer. Vous êtes, Georges Semprin, un spécialiste du film politique. Et vous le voulez, vous le souhaitez, et vous ne pouvez pas vous en sortir.
Je ne le souhaite pas d'être le spécialiste, ni d'être étiqueté, catalogué, au contraire.
Disons que vous êtes un témoin historique de ce temps.
Au contraire, je voudrais même, par exemple, l'une des choses qui m'a le davantage attiré dans ce roman de Drieux, qui était par ailleurs un roman très daté, et par certains côtés très désuet.
Une histoire d'amour.
C'est ça. Ce qui m'a attiré, c'est qu'il y avait une femme.
Oui, enfin.
Au centre de... D'une certaine façon, il y avait aussi des femmes dans La guerre est finie, parce que c'était l'histoire aussi l'histoire d'un militant qui est pris dans les contradictions entre son travail et sa vie privée, etc. Il y avait deux femmes dans ce film. Mais c'était quand même des femmes satellisées un peu par l'homme que jouait Montand, Diego, vivantes autour de lui, à son ombre ou à sa lumière, alors qu'ici, c'est le contraire. Oui. Et c'est ça qui m'a passionné.
Car soyons tout à fait sincères, avant Une femme à sa fenêtre, ce film de Garnier de fer tiré d'une aventure de Drieux-La Rochelle, enfin d'un roman de Drieux-La Rochelle, tous les films auxquels vous avez collaboré, et tous les films politiques d'une manière générale, ce sont des portraits d'hommes. Femme, c'était le repos des guerriers, cela ressemblait à du racisme.
Oui, ça c'est très troublant et ça finit par être très énervant. En effet, ces films envahis par les hommes.
Ah oui, la politique, une affaire d'hommes, seulement les hommes.
Les choses sérieuses sont des affaires d'hommes. Oui. Ça, c'est une chose que je vais essayer de systématiquement...
Mais déjà, ça vient avec ce film.
C'est un début, de casser complètement, d'essayer de ne pas faire des choses qui m'intéresseraient si elles retombent dans cette ornière-là.
Parce que cette fois-ci, c'est d'abord une histoire de femme, c'est une passion, c'est un visage de femme.
Oui.
Et c'est Romy Schneider.
Et c'est Romy Schneider, oui.
C'est une chance parfois d'écrire aussi pour quelqu'un. Non seulement une histoire, mais pour quelqu'un.
Dans ce cas précis, c'est une chance incroyable. Parce qu'en plus, Romy correspond au personnage. Non seulement correspond physiquement et sentimentalement et dans la passion, correspond au personnage de Drieux, mais elle correspond même biographiquement. Étant donné que le personnage de Drieux et la femme, Margot Santorini, est d'origine autrichienne aussi. Donc là, il y a vraiment une espèce de coïncidence.
D'origine autrichienne et grecque.
Une telle coïncidence entre le personnage du livre et le personnage de l'actrice, que dans ce cas précis, alors qu'en général, je préfère ne pas savoir quel est le visage de l'acteur qui va dire, tout au moins au début, le dialogue qu'on écrit, là, c'était une aide très appréciable de savoir que c'était Romy qui allait le dire.
Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi un peu parce que chez Drieux-La Rochelle, l'action se situe en 1920. Chez vous, elle se situe en 1936. Parce qu'on le sait, 1936, c'est une année de tension. C'est le commencement du fascisme, le déferlement du fascisme. Donc vous le situez déjà politiquement. 1936, pour vous, c'est une date politique. Pour Drieux-La Rochelle, c'était 1920.
Oui, c'est un des reproches qu'on a fait à l'adaptation. Je ne crois pas qu'il soit fondé. D'abord parce que Drieux a écrit le livre en 29, donc il ne pouvait pas le situer ailleurs qu'en 24-25, et qu'ensuite, l'essentiel n'est pas cette époque-là qui, dans le roman de Drieux, joue un rôle négligeable. Il n'y a rien de précis, au point de vue événement et au point de vue affrontement politique, qui exige cette époque-là. Et que donc, le reporter à une époque plus proche de nous et plus significative du point de vue même de l'affrontement que Drieux voulait mettre en scène dans son livre, c'est-à-dire l'affrontement entre la vie privée et l'histoire, entre la vie privée et la Révolution, entre une femme et ce militant qui fait éruption dans sa vie, qui la change, cet affrontement était plus lisible, plus facile à expliquer, plus facile à mettre en scène en 36, me semble-t-il. Mais j'ai eu la confirmation que ce n'est pas une erreur l'autre jour en lisant, samedi je crois, en lisant la critique du film par Michel Mort. Michel Mort dit à la fin de sa critique que dans la dédicace que Drieux-La Rochelle lui-même lui a faite sur un exemplaire d'Une femme à sa fenêtre en 1943, Drieux a écrit « C'est déjà le problème d'ici ». Donc, pour Drieux, en 1943, une femme à sa fenêtre, c'est déjà le problème d'ici. Donc, le problème de la France en 1943. Donc, il me semble que ça confirme parfaitement la possibilité de prolonger.
Oui, bien sûr.
Et de sortir de son contexte étroitement historique de 1920, cette histoire et la transposer à une époque plus proche de nous.
Mais c'est encore tout de même une femme qui se donne à un homme. Si elle suit le mouvement révolutionnaire, c'est parce qu'elle aime cet homme.
Bien entendu.
Mais elle aurait pu être, elle, celle qui provoque. La femme, dans ce cas, l'homme, dans ce cas-là, pourrait-il suivre?
Ah, vous voulez dire que ce n'est quand même pas encore un personnage
voilà.
moteur?
Non, c'est à vous.
Oui. Non,
parce que je sais que vous voulez réhabiliter.
Oui,
c'est
vrai. Mais à partir du choc initial voilà. de la passion, c'est quand même elle qui déclenche tout le reste.
Oui.
C'est quand même elle qui entraîne, qui organise l'évasion de Boutros, le personnage joué par Lannou.
Et Boutros, vous ressemblez à Boutros?
Vous savez tout.
Révolutionnaire clandestin.
Oui. Il y a des points de ressemblance comme ça, bien sûr. Je n'ai jamais eu à sauter au-dessus d'une grille pour me cacher dans un hôtel chez une jolie femme. Enfin, c'est vrai qu'il y a des points communs. Toute clandestinité et toute activité de ce genre-là a des points communs, même dans un temps et un espace géographique différent, bien entendu.
Si l'on regarde à peu près les choses, on est obligé de constater que jusqu'à présent, votre vie aura été une longue méditation sur le pathétique des révolutions.
Elle a d'abord été été une assez longue pratique du pathétique de la révolution.
Pratique avant d'être et méditation. En même temps, peut-être.
Oui, parfois en même temps et parfois c'est l'un après l'autre.
C'est tout à fait tendu par notre époque. Alors cette époque peut-être se libère un peu. C'est libre. Vous êtes libre.
Oui, tout à fait.
Donc
oui.
Vous allez prendre le temps, une fois encore, d'écrire autre chose, peut-être.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que vous voyez...
Faire jouer le réel et l'imaginaire.
Oui, mais je crois que, pour moi encore, l'échec... C'est une opinion personnelle que je donne, bien entendu. L'échec de la révolution communiste au XXe siècle, c'est l'affaire essentielle du XXe siècle. Encore pour moi. Donc je crois que il y aura encore des films, j'espère, et des livres en tout cas, qui vont revenir sur ces thèmes. Je ne suis pas encore complètement libéré de ça.
On ne se libère jamais, d'ailleurs.
Je ne sais pas si on peut se libérer de ça. Moi, en tout cas, je crois que je ne pourrai jamais.
L'Espagne est-elle maintenant celle que vous souhaitiez? On y arrive petit à petit?
Je crois que si on tient compte d'un certain nombre de données essentielles qu'il ne faut pas oublier, comme celles dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire que le franquisme n'a pas été renversé par un mouvement de masse pacifique, une suite de grèves qui s'enchaînent, enfin, faisons l'hypothèse, qui a été celle de l'opposition de gauche pendant longtemps et qui a échoué. Quand on pense que le franquisme se démantèle parce que ce sont les institutions installées par Franco lui-même qui démantèlent ce franquisme, je crois que si on tient compte donc de cette limitation, l'Espagne actuelle est à peu près ce qu'on pourrait souhaiter de mieux, étant donné les circonstances.
Donc, Georges Sempra, vous allez partir pour l'Espagne. Pourriez-vous, dans les conditions actuelles, y jouer un rôle politique?
Je ne tiens pas du tout à jouer un rôle politique. C'est-à-dire que je ne tiens pas à jouer un rôle politique directement, à travers des organisations, des organismes et des partis politiques.
Là, vous avez rompu définitivement.
Là, j'ai rompu définitivement, non seulement
avec
le Parti communiste, mais avec le parti en tant qu'instrument de l'action politique.
Vous ne croyez plus aux partis, aux organisations?
Plus du tout de la façon dont j'y ai cru pendant si longtemps. Mais de toute façon, la politique, ce n'est pas seulement ça. La politique, c'est aussi, se joue à des niveaux très différents. Et un journal peut être un acte politique, et la collaboration à une revue peut l'être, et le cinéma peut l'être. Donc, si vous voulez, dans un domaine plus culturel, pour employer un grand mot, que directement politique, je crois qu'on peut jouer un rôle encore. Mais il ne sera jamais directement politique.
Mais on vous demandera de jouer ce rôle, étant ce que vous êtes, ayant fait ce que vous avez fait.
On le demande déjà, bien sûr. Les professionnels sont rares dans tous les métiers, alors on demande toujours aux professionnels de revenir. Non, mais là, je crois que c'est clair. J'ai mis les choses au point suffisamment dans un certain nombre d'interviews en Espagne pour que maintenant, la chose soit claire, définitivement établie.
La France vous a un peu façonné, d'une certaine manière.
Beaucoup.
Que vous a-t-elle donné? Le positif de votre aventure française?
Elle m'a donné, mais le positif, je crois que presque tout est positif. Les choses qui ne sont pas positives dans mon aventure française ne tiennent pas à la France, tiennent à la vie en général, ou tiennent à la mort, enfin je ne sais pas à quoi, mais en tout cas, ne tiennent pas à la France. Elle m'a d'abord donné La possibilité de participer à un certain nombre de choses. La France m'a donné la possibilité de lui voler cette langue, qui est un instrument assez étonnant.
Vous ne la volez pas, vous la portez ailleurs maintenant.
Oui, mais enfin, pendant quelque temps, j'ai volé le feu. Et donc, d'utiliser cette langue qui est passionnante. Et d'ailleurs, ce vol me servira beaucoup, je crois, pour revenir et pour au castillan et pour modifier aussi le castillan qui a des défauts comme ça inhérents de rhétorique et de grandiloquence qu'il faut toujours couper le cou à la grandiloquence espagnole. Et alors là, je crois que ce passage, très long passage, par le français me permettra de simplifier et de rendre plus sobre cette langue espagnole qui a une tendance à s'emballer dès qu'on la laisse un peu tranquille et à multiplier les adjectifs, les incidentes, les phrases interminables.
Georges Sempron, vous connaissez à fond les deux langues. Maintenant, il doit être quand même difficile d'aller d'un côté ou de l'autre. Il faut faire un choix, on écrit ou en français ou en espagnol.
Non. Je sais que c'est un peu prétentieux, mais je vais essayer de continuer à écrire dans les deux langues. C'est-à-dire de continuer. Je vais essayer de continuer à écrire, en espagnol, mais de quand même, de temps en temps, publier quelque chose en français.
À la main ou machine à écrire?
À la machine à écrire. Je ne peux pas écrire
donc
à la main.
Donc deux machines à écrire. On peut imaginer une machine à écrire
vous touchez
avec
un problème
texte
très
français,
sensible.
Un texte espagnol.
Vous touchez un problème très sensible parce que les machines à écrire exigent un déplacement. Dès que je fais un voyage ou que je pars quelque part ailleurs qu'à Paris pour travailler, un déplacement d'instruments considérable. Parce qu'en effet, ce ne sont pas les mêmes machines. Oui. Je ne peux pas écrire à la main, parce qu'écrire à la main, on n'a pas de distance avec le texte. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, qui arrive souvent, avec une phrase, avec une page, je laisse la machine pour essayer de résoudre le problème à la main. Après, il faut que je prenne la machine, parce qu'il y a une espèce de froideur dans le texte écrit à la machine, qui me permet, à moi en tout cas, une plus grande objectivité, si tant est qu'on peut être objectif avec ce qu'on écrit soi-même.
Votre vie n'aurait pas été banale. Vous en êtes satisfait?
De ma vie? Absolument satisfait, oui.
Vous l'auriez presque souhaité ainsi? Avec le pire, c'est-à-dire les camps de concentration pendant 2 ans.
C'est-à-dire que j'ai toujours, tout ce qui m'est arrivé, dans une certaine mesure, a été souhaité, parce que je pouvais toujours faire les choses qu'il fallait pas pour ne pas être là où j'étais. Donc, j'ai toujours souhaité, être en Espagne à une certaine époque, j'ai souhaité être dans les maquis, donc avoir la possibilité d'être arrêté. Donc, je suis très satisfait de ma vie.
Vous avez toujours pris vos risques.
Des risques, mes risques et mon plaisir aussi.
Alors, que penseriez-vous de quelqu'un qui passerait toute sa vie tranquillement? Sans risque, banal.
Mais j'aurais beaucoup d'admiration si cette façon de passer sa vie était productive. Il y a beaucoup de façons d'être...
Il y a des aventures intérieures.
Il y a beaucoup de façons d'être productif et d'être socialement productif sans prendre jamais de risques, comme ceux dont on vient de parler.
Oui.
Il y a des risques intellectuels énormes qu'on peut prendre dans un laboratoire. Un médecin peut avoir une vie apparemment banale, être tout le temps en train de risquer sa réputation et ses diagnostics vis-à-vis de cet ennemi qui est quand même le principal que nous avons, qui est la mort. Donc, je ne suis pas du tout... Je ne préfère pas ma vie à celle des autres, c'est la mienne, mais j'ai beaucoup de respect pour les vies tranquilles si elles sont productives. Les vies qui ne m'intéressent pas, ce sont les vies résignées, mais les vies tranquilles peuvent être parfaitement productives.
Vous êtes auteur, Georges Semprin, et votre importance a-t-elle été minimisée, par exemple, au cinéma? On sait bien qu'au cinéma, le personnage principal, c'est le metteur en scène.
Mais c'est parfaitement juste.
Et parfois, il a quand même tendance à oublier l'auteur.
C'est parfaitement juste. C'est parfaitement normal. Ça, je crois qu'il ne faut avoir aucun sentiment de frustration. Et moi, je ne peux pas en avoir, parce qu'en plus, je suis tombé sur des metteurs en scène qui ne m'ont jamais oublié. Mais faisons l'hypothèse, comme ça, absurde, l'hypothèse, que ça m'arrive. C'est parfaitement juste, parce qu'un film, c'est quand même, à partir d'un certain moment, où le travail d'écriture est fini, l'aventure du metteur en scène avec ses techniciens et ses acteurs. Et un film, c'est quand même l'œuvre du metteur en scène. Bien entendu que le metteur en scène s'en sortira mieux s'il a un bon scénario. Mais ça, ce sont des banalités, c'est des choses que tout le monde sait. Je crois qu'il faut admettre au départ que la part de l'écrivain, la part de l'auteur, dans le cinéma, est une part d'un travail collectif. Mais quand même, l'empreinte définitive... Comment se fait la différence d'un film à un autre, avec des scénarios comparables La différence se fait parce que le metteur en scène a du génie ou n'en a pas, ou du talent ou n'en a pas. Et à quoi ça tient? À la place d'une caméra, à un jeu de scène, à une indication, à une lumière qui tombe ou qui ne tombe pas? Ce n'est pas vous qui écrivez ça, même si vous écrivez très en détail la colonne de gauche. C'est le metteur en scène qui règle ça. Donc c'est quand même à lui que ça revient.
Enfin, une vie comme la vôtre, Georges Semprin, est tout de même une chance rare. Vous arrivez en France, vous ne parlez pas un mot de français, vous installez dans ce pays, vous souffrez les malheurs de ce pays, vous écrivez dans une langue qui n'est pas la vôtre, et vous y réussissez. Et puis les films que vous inventez avec vos amis, avec René, avec Costa Gavras, avec d'autres, deviennent des succès étrangers. Et vous revenez en Espagne avec une langue française, vous l'espagnol.
Oui, c'est assez...
C'est vrai.
C'est assez, oui.
Donc, c'est peut-être que la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, très évidemment.
Mais j'espère que ce n'est pas la fin, parce que ce serait triste.
Non, j'espère aussi. Non, ce ne sera pas
donc,
la fin.
Donc, il faut renaître.
L'histoire de l'Espagne nous réserve quand même des années mouvementées, donc ce n'est pas la fin. Dans l'avenir, je veux dire. Mais la boucle, de toute façon, est bouclée, en effet.
Parce que regardez les dates, 1939, vous arrivez à Paris, 1967, vous allez en repartir. Donc là, nous aurons eu un intervalle de quelque chose comme 37 ans. Hein. Mm-hmm. 37 ans que vous allez devoir oublier.
Non, pas du tout. 37 ans dont j'aurai à me rappeler sans cesse pour continuer à vivre.
Et en fait, si vous continuez dans votre système, vous n'écrirez cette période, c'est-à-dire cette période française, car un jour vous écrirez sur la France, vous n'écrirez que dans 20 ans.
Ah, j'ai beaucoup de retard, en effet, sur ce plan-là. Il faut que je réécrive encore un livre sur les camps, parce qu'il faut, je suis absolument obligé de le réécrire maintenant, cette expérience-là, maintenant que je sais que simultanément à la nôtre, il y avait les camps du Goulag, il faut forcément que je suis obligé en tant que communiste.
Vous ne le saviez pas.
Vous ne le saviez pas du tout à l'époque. On a vécu ça dans une innocence totale.
Donc on peut penser également qu'en France, contrairement à ce qui a été dit, on ne savait pas qu'il y avait tous ces camps avec tellement de juifs.
Bien sûr.
Vous croyez vraiment qu'on était à ce point ignorant?
Vous savez, il y a une ignorance réelle, et en plus, il y a aussi le besoin d'ignorance. Les deux choses jouent, mais c'est vrai que...
La nécessité d'ignorer.
Je peux vous donner mon expérience personnelle. Quand j'ai découvert ce qu'était le camp, rien, et pourtant je participais à la résistance, rien de ce que j'avais su sur les camps n'était comparable, n'était suffisant comme information par rapport à ce que nous avons découvert. Donc, mais il y a aussi l'ignorance voulue. Chez nous, communistes de l'époque stalinienne, l'ignorance des camps russes était une ignorance voulue. Il y avait des éléments pour savoir. Nous n'avons pas voulu savoir. Donc, il faut que j'écrive cette expérience-là de nouveau en dialoguant avec l'autre expérience, parce que sinon, je ne serais pas fidèle à mes opinions communistes.
Vous dites, en dialoguant avec l'autre expérience, pourrait-on dire de la même manière que Georges Semprin, aujourd'hui, qui n'est plus communiste, pourrait dialoguer avec l'autre Georges Semprin, qui était communiste? Sont-ce là deux hommes différents?
Oui, deux hommes différents, mais avec une continuité, parce que vous dites, vous avez raison de le dire, je ne suis plus communiste, mais je dirais, je ne suis plus militant communiste. Je crois que je ne le serai plus jamais, mais je crois que je toujours. Vous savez, avec Yves Montand, nous avons une phrase comme ça entre nous, une espèce de formule pour préciser notre situation. Nous disons, nous avons perdu nos certitudes et gardé nos illusions. Eh bien, les illusions du communisme, je les ai toujours.
Vous écrirez un jour un livre sur la France, votre périple français, votre promenade française.
C'est possible. À commencer par la résistance, dont je n'ai encore rien écrit.
Mais en dehors de la guerre.
En dehors de la guerre.
Le regard que vous pouvez porter sur les Français.
Sûrement.
Vous avez dit tout à l'heure ce que vous pensiez des Espagnols. Quel autre regard aussi sincère portez-vous, mais cette fois-ci sur les Français?
Bien, vous voyez, c'est très curieux, je ne suis pas capable de vous répondre à ça pour l'instant. Je n'ai pas encore assez de recul. Et peut-être que je ne me suis pas posé cette question parce que je n'avais pas besoin de me la poser avec une force aussi grande, parce que j'ai besoin de savoir ce que je pense de l'Espagne pour travailler sur l'Espagne. Et je n'ai pas eu ce besoin par rapport à la France. Mais c'est une bonne question, il faudra que je me la pose.
Vous lisez beaucoup?
Je lis beaucoup, très peu de romans, mais beaucoup.
L'histoire, toujours?
L'histoire, de l'économie politique, des livres très ennuyeux, disent mes voisins ou ma famille, mais enfin des livres qui m'intéressent beaucoup.
Vous êtes capable, Georges Semprin, d'avoir de l'imagination, d'oublier que vous avez eu une vie, que vous avez eu une expérience et qu'il y a eu une réalité?
J'essaie toujours.
Parce que le rêve est également une création.
Le rêve est une création.
La plus belle, peut-être.
Bien sûr, j'essaie toujours de reconquérir cette part de rêve, bien entendu.
Il y a une phrase qui est très belle, d'ailleurs je l'ai empruntée à Fitzgerald, mais vous l'aviez empruntée avant moi, au même homme. Il faut savoir que les choses sont sans espoir et être décidé à les changer.
Oui, c'est une des phrases les plus belles. C'est Florence Malraux qui m'a signalé l'existence de cette phrase. C'est une des phrases les plus belles parce que c'est une des phrases les plus dialectiques, les plus disons, entre un peu ironiquement marxiste qui existe, beaucoup plus dialectique que les pensées du président Mao. Je crois que c'est très vrai. Il faut savoir vivre dans la contradiction. C'est-à-dire, il faut savoir, pour moi, aujourd'hui, me rappeler la fraternité, l'acquis du communisme, et savoir en même temps critiquer le résultat de cet acquis, de cette fraternité.
C'est-à-dire, les choses sont sans espoir, mais il faut les changer.
Voilà.
Donc il faut lutter.
Ça,
ne jamais désespérer.
Aucun doute à avoir là-dessus.
Georges Semprin, nous sommes tristes de vous perdre, mais nous ne vous perdons pas tout à fait. Vous allez partir pour l'Espagne, mais je suis persuadé qu'il y a un film quelque part dans un coffre, dans un tiroir.
Ici,
en France,
oui,
Costa Gavras.
Il y a des projets avec Costa et un projet avec Lozé qui me ramèneront en France forcément.
Merci Georges Semprin.